Chaque fois qu'on entend un écologiste aujourd'hui, c'est soit une insanité, soit une connerie.
Le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto, tout ça, c'est rien.
Furax, l'atelier qui traque la désinformation climatique dans les médias français.
L'arnaque de l'hystérie écologique.
Vous respectez plus vos chiottes que la planète.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. On a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Julie Dehay. Julie, tu es océanographe physicienne au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique. Tu as soutenu une thèse en 2006 sur l'influence de la formation d'eau profonde sur la variabilité de la circulation méridienne moyenne dans l'océan Atlantique. Au micro avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Hubert, Gaïa, Adèle, Héloïse, Nathan et bien évidemment Julie. Nous avons également une super équipe pour nous accompagner en régie. Merci à Jules, Éléonore, Rabab, Marion et Mélissande.
Julie, grâce à vos études passées et en cours, on va s'intéresser aujourd'hui à votre rôle dans la diffusion de la recherche sur les enjeux climatiques et la double place que vos travaux occupent au sein de l'espace scientifique et l'espace médiatique. On va donc discuter des courants océaniques, du Gulf Stream et de la place des chercheurs dans la sensibilisation aux questions climatiques dans les médias.
Donc Julie, tu travailles sur la modélisation des courants océaniques notamment, tout particulièrement le Gulf Stream et la MOC. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer de quoi il s'agit ?
Il s'agit de traduire dans un langage que les ordinateurs peuvent comprendre les équations mathématiques qui traduisent la physique des milieux continus que sont les océans. Alors, dit comme ça, ça paraît simple. En fait, il faut agréger les connaissances de plusieurs disciplines. D'une part, la physique des milieux continus. L'océan, c'est un fluide et il est régi par les mêmes lois de physique fondamentale que tous les autres fluides, à la fois le sang, l'air et plein d'autres choses comme ça. Mais c'est tellement complexe que, parce qu'il y a beaucoup de processus qui interagissent sur différentes échelles de temps et d'espace, que tout de suite comme ça, juste connaître les équations qui régissent ces fluides, ça ne suffit pas. Il faut passer par une résolution sur un ordinateur pour avoir des représentations graphiques, faire des jolies figures, éventuellement prédire l'océan de demain et le climat du futur. Et donc ça mérite de mettre en œuvre des solutions qui viennent plutôt des maths appliquées. Donc c'est vraiment une autre discipline. Et puis ensuite, on a besoin d'informaticiens qui savent parler à ces gros calculateurs. Donc finalement, c'est comme si on construisait un petit Minecraft, sauf que c'est pas pour faire n'importe quoi, un petit bonhomme qui se balade, c'est pour représenter les vrais océans de la vraie planète Terre.
Ok, et du coup pour ça, donc, tu utilises beaucoup la modélisation, et notamment pour modéliser les courants marins. Et donc quelle est vraiment l'utilité de produire des modèles pour comprendre le réchauffement climatique ?
Alors, il y a comprendre et prévoir. C'est les deux grands enjeux. Comprendre, c'est comprendre l'état actuel des océans, comprendre d'où on vient, le fonctionnement du système climatique. Et prévoir, c'est parce que le changement climatique est tellement prégnant maintenant, à l'heure actuelle, malheureusement, qu'on ne peut plus considérer ou s'échapper de ce contexte-là. Donc il y a des enjeux qui sont à très court terme, comme pour la météo, on fait de la prévision très court terme de l'état de l'océan. Ça sert par exemple au routage des bateaux. Alors on en parle quand on voit des courses au large, mais ça vaut aussi pour minimiser par exemple l'utilisation de carburant pour les pétroliers, les cargos. Et on le fait aussi à plus long terme pour anticiper justement l'effet ou les effets du changement climatique, par exemple les hausses de niveau de la mer, les canicules marines, la présence aussi, tout ce qui va être faune et flore qui vit dans les océans et qui subissent l'évolution des conditions hydrodynamiques, c'est-à-dire par exemple le développement de blooms d'algues toxiques qui font qu'on fermerait une plage. Voilà, toute cette dimension-là, alors, il y a toujours beaucoup d'échelles de temps, il y a du court terme et puis il y a du plus long terme. Ça implique d'anticiper, de prévoir ce que sera l'état de l'océan dans un futur plus ou moins lointain. Et donc, pour ça, il faut modéliser les océans.
D'accord, merci. Et on va parler maintenant du Gulf Stream et de la MOC qui sont au cœur de tes travaux. Est-ce que tu peux rapidement, pour nos auditeurs, rappeler ce que c'est ?
Oui, tout à fait. C'est un sujet, en effet, qui sont au cœur de mes travaux et surtout dont je parle beaucoup parce que c'est quand même très simple de clarifier les choses. Du moins, c'est mon point de vue qui n'est pas partagé. Donc, le Gulf Stream, c'est un courant marin. Il est bien défini. Il longe la côte est de l'Amérique du Nord, de la pointe de la Floride vers le nord jusqu'à un endroit qui s'appelle Cap Hatteras. Ça, c'est le Gulf Stream. Il ne va pas jusque dans les côtes bretonnes, il ne traverse pas l'Atlantique, ça c'est pas vrai. Et pourtant c'est dans les manuels scolaires. On peut essayer de raconter pourquoi, il n'empêche qu'on le sait d'un point de vue théorique, ce qui fait qu'il y a un Gulf Stream là où il est. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est vraiment la théorie fondamentale très jolie, très élégante. Et ça a des implications pour le climat très importantes, parce que grosso modo le Gulf Stream, comme ses autres copains, qui sont un peu pareils, qu'on appelle les courants de bord ouest, régulent en fait ou rééquilibrent l'excellente chaleur qui est perçue à l'équateur pour le transporter vers les pôles. Donc c'est ce qui définit le rôle des courants de bord ouest dans les océans. La MOC, c'est quoi ? C'est souvent on l'associe au Gulf Stream, alors que la MOC, ce n'est pas un courant marin. Ce n'est pas non plus un objet. C'est une construction mathématique qu'on a créée un jour pour pouvoir, de façon plus synthétique, raconter le rôle de l'océan dans le climat. Donc historiquement, il y a quelqu'un qui a spéculé une circulation thermohaline, qui est le fameux tapis roulant des océans que tout le monde regarde. C'était des paléoclimatologues qui voulaient expliquer pour une période très précise du climat du passé pourquoi il y avait eu des fluctuations de climat glaciaire à interglaciaire, donc chaud à froid, alors qu'il n'y a aucune autre raison en fait que le fait qu'il y ait en effet ce tapis roulant et que lui-même il ait un peu des velléités à augmenter et à diminuer. Donc c'est une théorie en fait, ce tapis roulant. Qui, pour ces objets-là très précis, et c'est dans une temporalité très très précise du passé, en effet, c'est la seule théorie qui vaut à l'heure actuelle. Mais par contre, ce n'est pas un courant. Et surtout, c'est la circulation thermohaline. Maintenant, le nom a changé, c'est devenu MOC, pour des vraies bonnes raisons. Et maintenant, je raconte, et je suis ravie de voir que mes collègues reprennent cette terminologie, ça n'est qu'une construction mathématique. On prend les faits cumulés de tous les courants dans l'Atlantique Nord, dans la direction du sud vers le nord. Et c'est ça la MOC, en fait. Ça n'est que ça. Donc c'est vraiment un objet très abstrait. Souvent les gens me demandent, oui mais quand même, alors, on n'arrive pas à voir. Je dis, oui c'est normal qu'on n'arrive pas à voir, parce que ça n'est pas une chose, c'est pas un courant. C'est une construction mathématique pour mieux dérouler des théories sur les fluctuations de l'océan et leur impact sur le climat. Pourquoi j'insiste sur cette différence ? C'est que le Gulf Stream, il est tangible, on peut le mesurer. On sait où il est, on peut aller. D'ailleurs, j'avais la chance d'être dans le Gulf Stream il n'y a pas très longtemps pour une campagne océanographique. La MOC, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la mesurer. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces controverses sur le futur de la MOC. Parce que c'est l'agrégat de plein de processus très différents qui vont avoir lieu à des endroits différents, dans des temporalités différentes. Et donc, on ne sait pas dire tout de suite ce que sera la MOC demain.
Oui, parce qu'on entend souvent dire dans les médias que la MOC pourrait s'arrêter et qu'elle viendrait refroidir l'Europe. Est-ce que du coup, tu peux expliquer plus en détail pourquoi cette idée est trompeuse, voire dangereuse ?
Cette idée est trompeuse et dangereuse parce qu'elle donne un argument à tout un chacun pour ne rien faire. Autrement dit, le changement climatique est la cause des activités humaines et des émissions de gaz à effet de serre liées à notre mode de vie. Ça, il n'y a plus grand monde qui le conteste. Mais par contre, si tout d'un coup on dit qu'il y a quelque chose de naturel dans le système qui va changer et que ça va compenser le réchauffement global qui est induit par les activités humaines, c'est super, quelle aubaine, ne changeons rien. Bon, la vérité, c'est que, en effet, il y a les faisceaux de preuves convergent pour dire que la MOC est en train de diminuer ou va diminuer. Est-ce qu'elle va le faire de façon progressive ou de façon brutale ? Ça fait partie des points de controverse. Les raisons pour lesquelles elle va diminuer, c'est parce que la température augmente. Il y a très peu de chances qu'on se trompe sur ça. La température va continuer d'augmenter. On est sur des trajectoires qui sont en fait en train de s'accélérer. Donc je pense que oui, la MOC va diminuer. L'impact que cela va avoir, c'est aussi un sujet de controverse. Parce que représenter de façon fidèle le climat du futur, avec ou sans la MOC, en fait, rien que ça, c'est une question scientifique qui, en fait, est mal posée. Du coup, on compare différentes façons d'aborder ce problème-là et chaque façon de le faire va donner un résultat qui est différent, d'où ces controverses. Dans tous les cas, ce que je partage toujours, c'est qu'on peut avoir donc, ces modèles, ces petits Minecraft, il y a de bonnes raisons pour qu'ils disent des choses différentes. C'est une façon d'explorer les incertitudes dans la construction même de ces modèles. il y a des incertitudes aussi pour le futur sur comment nous, on agit. Si là, cette émission est écoutée par tout le monde et que tout le monde est convaincu qu'il faut changer nos modes de vie, on va peut-être réussir à sauver la moque. J'aimerais bien y croire. Mais en attendant, on peut en fait voir aussi la physique, les fondamentaux du changement climatique. C'est finalement des éléments de physique assez basiques. L'émission de gaz à effet de serre, la concentration de gaz à effet de serre qui augmente, l'effet de serre lui-même, qui n'est d'ailleurs pas un problème physique simple, mais il y a beaucoup de pédagogie qui est faite très très bien pour expliquer ce que c'est. Et le fait derrière qu'avec cette augmentation de température, on change radicalement le fonctionnement même de la machine océan. Et donc on change la moque. Et donc on va encore plus dans une autre trajectoire qui s'éloigne de l'océan actuel. Qu'est-ce qu'elle va être cette autre trajectoire ? Est-ce qu'il y a une chance pour que cette trajectoire elle soit plutôt au bénéfice de l'épanouissement de l'humanité ? Il n'y a quand même pas beaucoup de chance pour ça. Les sociétés humaines, dans leur fonctionnement, elles ont quand même l'air d'être assez ancrées avec le fonctionnement de la machine climatique telle qu'il est. Donc tout de suite là, passer sur un autre système climatique complètement différent et se dire que ça va être mieux pour tout le monde, c'est quand même très peu probable. C'est ce qui est écrit dans les rapports du GIEC. Donc on est quand même là en train d'essayer de limiter au maximum cette divergence par rapport à l'état du système climatique actuel pour préserver le climat qui nous permet de préserver les sociétés humaines telles qu'elles fonctionnent actuellement par rapport à ce climat. Et donc, un arrêt de la moque, c'est pas bon dans tous les cas parce que ça nous éloigne encore plus du système climatique actuel.
Et est-ce que tu pourrais préciser, selon toi, pourquoi la moque, elle suscite autant d'attention, notamment pour les climato-sceptiques ou les climato-rassuristes ?
Comme je l'ai dit, c'est une construction mathématique pour représenter l'effet de l'océan sur le climat. Donc c'est vraiment le truc qui agrège un peu tous les différents effets. Regardez juste le rôle du Gulf Stream sur le changement climatique, c'est pas très intéressant, c'est très ponctuel. Là, la moque, par construction, c'est l'effet intégratif. Après, il y a aussi des vraies mauvaises raisons, ou des bonnes mauvaises raisons. Par exemple, le film Le jour d'après, qui est sorti en 2004, qui en fait montre qu'il y a un cataclysme qui arrive parce que la moque s'arrête. Alors tout est faux dans ce film, les échelles de temps ne sont pas les bonnes, l'amplitude des modifications ne sont pas les bonnes, etc. Mais c'est quand même tiré d'un article scientifique qui a été publié sur la moque à ce moment-là. Article qui a été démenti depuis, et où l'auteur lui-même a dit « Oh, désolé, j'ai fait une grosse erreur ». Mais il n'empêche, le film est resté, et il n'y a encore pas très longtemps, il était diffusé en heure de grande écoute. Et encore une fois, je pense qu'il est là parce que les gens s'en saisissent pour dire « Regardez, pas la peine de changer nos modes de vie, on a une solution naturelle qui va résoudre le problème du réchauffement global ».
Oui, et maintenant, on aimerait bien parler de votre rôle dans les médias, et donc pour commencer, de savoir comment vous avez commencé à intervenir dans les médias, et pourquoi vous l'avez fait.
Il y a eu un point de bascule dans peut-être mon âge, ma carrière, quand on m'a demandé de faire des conférences grand public et où j'ai décidé d'accepter. C'est-à-dire que quand on parle au grand public et qu'on accepte de se soumettre aux questions, on va forcément parler de choses qui ne sont pas exactement ce qu'on a fait dans nos recherches. Et ça, c'est intimidant. C'est pour ça que je dis il faut de l'âge, il faut être vieux, il faut être vieille. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et accepter que finalement, même si son expertise... Donc, j'ai dû accepter que mon expertise scientifique est à géométrie variable en fonction de qui est en face de moi. Et quand j'ai décidé ça, je me suis dit « Ok, donc j'y vais, mais à ma façon. » Et donc, j'ai commencé moi-même à me doter de ce que je pensais être la bonne manière de vulgariser, notamment cette histoire de Gulfstream et de Mock. Et à partir du moment où je l'ai fait dans des conférences grand public, je me suis dit bah, pourquoi pas raconter ça dans les médias. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec après une quête pour moi de me servir de ces opportunités pour essayer des façons de transmettre. Je pense que tout à l'heure, mon explication n'était pas super sur la moque, le futur, parce que c'est ultra complexe. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un qui était un médiateur pour très réputé d'ailleurs, mais je tairai son nom par politesse. Et en fait, il m'a répondu « Non, c'est pas complexe, c'est juste que tu sais pas l'expliquer. » Je dis « Oh bah, ok, bah du coup, je vais m'entraîner à l'expliquer. » Et chacune de ces opportunités est pour moi une chance pour aller agréger d'autres tours, d'autres expertises, d'autres métiers pour m'aider à mieux expliquer ce que je fais. Et au passage, raconter quand même aussi le message principal qui est le changement climatique. Et là, c'est de notre faute, on a les solutions. On sait ce qu'il faut faire, bordel, pourquoi on ne le fait pas ?
Et du coup, en parlant de cette vulgarisation, est-ce que maintenant tu as découvert peut-être des techniques ou comment tu fais pour vulgariser maintenant tes sujets au mieux ?
Ouais, ce serait très, très pédant de dire que j'ai des techniques. Franchement, j'essaye. La technique que j'ai, c'est de ne pas croire qu'il y a une technique qui marche. S'adapter à qui j'ai en face de moi, écouter comment la personne ou le groupe en face reçoit les choses et pas avoir d'idées trop préconçues sur ce que je vais dire ou comment je vais le dire. Par exemple, une de mes participations dans les médias que j'ai trouvée la plus pertinente, l'intervieweur avait vraiment rien compris et voulait vraiment comprendre. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps et j'avais oublié en fait qu'il y avait une captation et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à réexpliquer encore et encore et encore. Et je ne sais pas ce que ça a donné à la fin, mais ça montre combien, pour moi, il n'y a pas de bonne méthode. Il faut essayer. Parfois, je me trompe, peut-être souvent je me trompe. Je ne sais pas si à la fin j'aurai une bonne méthode. Si on part sur ce principe que ça dépend en fait de qui on a en face, de quel est le contexte, de pourquoi on diffuse ce message-là, dans quelles conditions seront les gens qui écoutent aussi, ben on voit qu'en fait il y a plein de méthodes qui peuvent fonctionner. Il faut juste savoir les adapter.
Et comment tu peux éviter justement trouver cette balance entre sursimplifier et en même temps expliquer quand même le sujet dans toute sa complexité, et l'incertitude qu'il y a autour de ce sujet?
Ah ben c'est la balance que j'essaie de trouver à chaque fois. Et j'y arrive pas à chaque fois. J'y arrive. Enfin, comment je fais ? Ben je sais pas. J'essaye. Franchement, j'essaye et je. Cette balance, elle est en effet très ténue. Aussi parce que si tu parles à une seule personne, tu peux t'adapter. Mais dès que tu vas parler à plus qu'une personne, mais il y a cette balance, tu l'auras atteinte pour une personne, mais pas pour l'autre, qui sera sur sa retenue, sur sa frustration, parce qu'il ou elle aura entendu parler d'autre chose et je n'aurai pas parlé de ça. Et à l'inverse, si je cible cette personne-là qui est un petit peu pointue, et ben il ou elle qui attendait un moindre niveau de détail sera perdu, écoulé et aura même loupé le message principal que je veux partager. Donc peut-être qu'à la fin, dans l'idéal, qu'est-ce qui marche ? Communiquer avec une seule personne et commencer par écouter ses questions. Mais ça, malheureusement, ça ne fait pas de la communication à grande échelle.
Et du coup, à propos d'un peu des sujets dont tu dois parler dans les médias, parce que du coup, tu es souvent amenée à parler de Amok et de Gulfstream par rapport aussi aux reprises qui ont été faites par les climato-rassuristes et sceptiques. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sujets que tu penses qui sont intéressants dans ta recherche, notamment sur ces questions, mais dont on ne parle pas assez ou que tu aimerais, toi, aborder en tant que scientifique ?
Oui, tout à fait. Je pourrais même dire que j'ai tellement essayé de parler de la Amok et du Gulfstream que je commence à en avoir un peu marre. Et en même temps, je me dis que si on me redemande et que si on me relance, c'est que j'étais vraiment pas bonne avant et donc j'ai encore une opportunité de faire mieux. Donc je le fais aussi. Par exemple, il y a un sujet dans mes recherches actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, à chaque fois, je dis « Ah, mais vous voulez pas m'interroger sur ça ?»« Ah non, c'est un autre sujet. » Ah. Voilà. Donc je sais pas si c'est parce que je suis pas encore assez visible scientifiquement sur ce sujet-là et que du coup c'est d'autres qui sont sollicités. Je sais pas si c'est parce que c'est trop tabou et il faut pas mélanger quand même les thématiques parce que l'IA et le changement climatique et en plus sur l'IA je prône des choses qui sont très radicales et très distinctes de ce que tout le monde dit, à savoir que moi je fais de l'IA pour être plus sobre dans mes activités. Et en général, on sait que le problème de l'IA avec le changement climatique, c'est hyper gourmand en énergie. Et voilà. Et donc, j'essaye de pitcher, j'essaye de lancer, et puis les gens ne reprennent pas. J'en ai parlé pendant une minute, là. C'est déjà énorme.
En fait, ça tombe bien parce qu'on allait un peu commencer à parler du futur de la recherche en modélisation. Et nous, à l'origine, on se demandait justement comment l'IA et les progrès des technologies en général, ça pouvait aider dans ton travail. Et du coup, si tu veux en parler un peu plus...
Ah, oh, c'est cool. Merci. Mais oui, ça peut aider dans mon travail. Parce que... Alors évidemment, il n'y a pas une IA, il y a plein d'IA différentes. Et précisément, si on veut atteindre des objectifs de sobriété, il faut être très vigilant sur le type d'infrastructure en IA qu'on fait, comment on le fait, avec quel type d'outils, bannir les clouds avec des réplicas de données dans tous les sens, mais être très méticuleux dans la mesure de nos consommations, à la fois pour du stockage de données et pour les moyens de calcul. Mais derrière, l'IA, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de faire la même chose qu'on fait en plus rapide, plus efficace. Et là, déjà, on gagne en sobriété, ce qui nous permet de pouvoir faire d'autres choses qu'avant, on se privait de faire parce que ça coûtait trop cher, à la fois en termes de stockage et calcul. Ensuite, l'IA, c'est innovant. Ça permet d'aller chercher des liens entre des comportements de variables d'un système climatique que là, tout de suite, on n'arrive plus à trouver. Le troisième point pour l'IA, c'est un peu lié avec cet aspect innovation, c'est le changement de paradigme. On n'est plus en train de raisonner de façon physique, pas à pas, sur l'enchaînement des processus et des liens de cause à effet. On est en train d'apprendre un agrégat complet. Et ça, je pense que c'est un changement de paradigme qui peut vraiment nous mettre sur la voie de choses qu'on a oubliées, qu'on a zappées. Voilà, ça fait trois pistes pour lesquelles je pense que l'IA vraiment... en tout cas, moi, ça m'attire. Peut-être que pour le résumer, j'ai décidé de m'intéresser à l'IA parce que je me suis rendu compte qu'avec la vitesse du progrès actuel, on n'y arriverait pas. Et je ne voulais pas continuer à juste faire un peu mieux mon super Minecraft des océans, que ça ne répondrait pas aux besoins des sociétés. Avec l'IA, forcément, on explose tout. Alors, il faut être vigilant, il faut être soigneux. Il y a aussi le fait aussi d'attirer une autre communauté. Par exemple, les gens qui font de l'IA ont une façon, une méthode scientifique qui est bien distincte, qui est bien différente. Et moi, je me suis rendu compte que rien que ça, au quotidien, parce que j'encadrais des étudiants qui venaient plutôt de profil IA, ça avait changé ma façon de faire la science aussi, et plutôt de façon bénéfique. Donc, ouais, s'ouvrir, ouvrir nos problèmes à d'autres communautés, les laisser poser des questions qui parfois paraissent naïves, bêtes et inappropriées, mais en ressortir ce qu'on peut avoir parce qu'il y a un regard distant. Moi, c'est ça que je vais chercher avec l'IA.
Et du coup, en fait, pour revenir sur cette question de la progression des modèles, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en fait, comment ça fonctionne, comment vous faites pour les rendre de plus en plus précis, enfin, comment ça améliore en fait ? C'est quoi ton travail au quotidien un petit peu avec ces modèles ?
En fait, dans le cas du climat, si on veut pouvoir continuer à faire le climat de la Terre entière, donc faire du changement climatique, et si on veut avoir cet objectif qui est le mien, qui est de quantifier les incertitudes par rapport à ces modèles et ces objets, en deux mots, faire des meilleures projections du climat futur, ça n'a pas de sens. Okay, c'est un problème mal posé, en fait. On ne sait pas ce que sera le futur. Donc, on a des projections. Par contre, ce qu'on veut quantifier, c'est toutes les incertitudes autour de ces projections. Et je ne parle pas de nos comportements à nous. Je parle dans la construction même de notre modèle. Quels sont les choix qu'on a faits qui font que la simulation, la projection, le climat futur se comporte de cette manière? Si j'avais fait un autre choix, ce serait très différent ou pas? C'est ce type d'incertitude. Bon, bah ça, moi, c'est ça qui m'intéresse scientifiquement. Quantifier les incertitudes des projections climatiques. Pour le faire, il faut que je remette en question, y compris le choix des schémas numériques. Et par contre, c'est très gourmand en calcul. Et du coup, je ne peux pas me permettre d'avoir un modèle très gourmand, très gros, très fin et très détaillé. Je dois avoir un modèle grossier qui est plutôt sobre en calcul, qui est rapide à faire tourner. Et comme ça, je vais pouvoir explorer toutes les incertitudes. Bon, ben ça, malheureusement, c'est des schémas numériques qui datent d'il y a 30 ans et on ne les développe plus. Donc en ce moment, avec des mathématiciens, je suis en train de redévelopper des nouveaux schémas numériques adaptés pour ces besoins. Il y a un peu ici une divergence entre faire des meilleurs modèles plus beaux, plus fins, plus précis, mais qui s'échappent à la question scientifique. Donc bien sûr, on a besoin de projections climatiques du futur à l'échelle régionale. Mais on ne va pas les avoir parce qu'on fait mieux l'échelle régionale actuelle et qu'on va les amener dans le futur. Si on veut parler concrètement, pour dicter, par exemple, l'impact du changement climatique sur le port de La Rochelle et comment on revisite la structure des digues, des quais, etc. Il faut certes savoir un peu mieux l'effet des vagues, par exemple, et comment les vagues et la houle vont rentrer dans le port. Ça, c'est ce qu'on appelle les processus de petite échelle. Mais si on ne le connaît que sur l'actuel, sachant que le port, quand on change quoi que ce soit, ça doit avoir une durée de vie d'une cinquantaine d'années, et vu l'ampleur du changement climatique, ça ne sert à rien. Mais par contre, mon modèle grossier, qui fait bien le climat du futur, ou du moins, qui quantifie les incertitudes et qui voit tous les possibles du climat dans 50 ans. S'il ne voit pas l'effet des vagues, c'est un peu dommage. Donc il faut trouver le compromis entre les deux. Et moi, dans les choix que j'ai faits, j'ai plutôt envie de travailler sur ces gros modèles dont on peut quantifier les incertitudes et ensuite raffiner l'information pour arriver au niveau des processus et donner une information utile aux sociétés.
Moi, je voulais revenir aussi sur les incertitudes. Du coup, comment, en tant que scientifique, tu fais pour transmettre l'incertitude donc, qui est normale dans le champ de la recherche, mais sans perdre la confiance du public ?
Ah, c'est une excellente question. Et on a obtenu un financement pour 10 ans pour répondre à cette question. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse maintenant. En vrai, il y a un grand programme exploratoire de recherche qui s'appelle TRACS, qui aussi dit le PEPR Climat, qui en effet a un programme sur 10 ans pour mieux définir ce qu'on appelle les services climatiques, c'est-à-dire la méthodologie pour donner des réponses précises aux sociétés face au changement climatique. Et dans tout ça, il y a un projet sur les incertitudes, c'est moi qui ai l'honneur de le porter, et c'est la question fondamentale. Comment continuer d'avancer dans notre compréhension des incertitudes, dans leur quantification, en parler à nos collègues scientifiques, ceux qui vont délivrer, par exemple, le plan sur le futur niveau de la mer et comment il faut refaire le port de La Rochelle. Il y a plein d'autres sujets comme ça. Là, le port de La Rochelle, c'est le niveau de la mer, mais on peut dire pareil sur quelqu'un qui se pose la question de quelles semences cultiver dans un plan, dans une parcelle de la Beauce, par exemple. C'est une échelle régionale, c'est des choses très concrètes, c'est l'évolution de l'agriculture d'aujourd'hui pour mieux anticiper le climat futur et surtout pour être dans une démarche où on va aussi mitiguer, c'est-à-dire atténuer le changement climatique. Mais tout ça, ça demande de l'information climatique. Comment on produit cette information climatique et comment on traduit les incertitudes de manière à ce que ce soit utile, c'est-à-dire que ça ne fasse pas peur, que les gens comprennent et que vraiment ça serve. Parce que masquer ces incertitudes, ne pas en parler, je crois que c'est une erreur. Les gens, ils les voient bien, les incertitudes, rien que par exemple sur les prévisions météorologiques. On voit bien que les systèmes de prévision météo, parfois ils ont raison, parfois ils se trompent. Alors comment est-ce qu'on pourrait prétendre que nos projections du climat dans 50 ans, dans une échelle régionale, on est vraiment sûr ? Évidemment, ça va pas marcher. Donc, une petite anecdote rapidement. On m'a sollicité pour anticiper les discussions autour de la COP21, donc en 2015, et je faisais partie de la table ronde pour tous les pays africains. Et j'arrive en tant qu'experte sur le climat futur, le changement climatique, la hausse du niveau de la mer. Et j'essaye de convaincre les gens qu'il faut s'engager contre le changement climatique et tenir compte de ces projections climatiques futures pour adapter les sociétés avant d'essayer d'atténuer. Et à ça me répond le porte-parole pour l'Égypte, qui me raconte l'anecdote comme quoi il y a un village entier qui était en bord de mer, qui vivait beaucoup du tourisme de balnéaire, qui, en fait, au moment de se restructurer, de refaire les infrastructures, les routes, amener l'électricité, etc., a tenu compte de la hausse du niveau de la mer. Et donc, ils ont délocalisé le village 20 km dans les terres. Résultat, 10 ans plus tard, en fait, le niveau de la mer localement, il a baissé. Donc, le village s'est retrouvé 40 km dans les terres. Ils ont perdu toute l'économie locale liée au tourisme. Et là, le négociateur me dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue à vous écouter ou pas ? Ça, c'est exactement ça. L'incertitude ou les incertitudes liées au changement climatique, aux projections climatiques futures, quand on veut arriver à une information locale qui est celle en fait qui intéresse le plus ces sociétés.
Nous arrivons donc à la fin de l'émission. Merci beaucoup Julie Dehaye d'avoir répondu à nos questions. Donc je le répète, vous êtes chercheuse au laboratoire d'océanographie et du climat et donc vous travaillez notamment sur la modélisation des courants océaniques et tout particulièrement sur le Gulf Stream et sur la MOC, enfin je simplifie pour les auditeurs. Donc merci beaucoup à toute l'équipe qui a participé à l'émission, Héloïse, Gaïa, Adèle, Hubert, Zoé qui ont posé des questions, mais aussi toute l'équipe de la régie qui sont présents dans le studio. Restez branchés sur Radio Campus Paris et à la prochaine.